On suit de très près la rencontre entre François Legault, hein, premier ministre du Québec, et M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada. C'était aujourd'hui que ça se passait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à aborder, entre autres l'immigration, je veux dire, qui fait l'actualité à chaque jour, mais qui est aussi éclipsée à chaque jour depuis plusieurs semaines, parce que y a des dossiers comme le budget qui sortent ou encore les scandales avec les rencontres de politiciens qui coûtent 100 $ finalement pour deux minutes. À chaque semaine, son scandale, et donc... Tout ce qui est rencontre pour l'immigration, ce qui est rencontre également pour la santé entre Ottawa et Québec, ça passe sous le couvert de l'anonymat. Disons-le comme ça, mais il y en a un qui surveillait ça pour nous dans les dernières semaines et on lui a parlé justement du sujet, je pense que c'est la semaine dernière. Il est au bout du fil, il s'appelle Jérémy Guillot. Merci Jérémy d'être là, directeur chez TAC. T'es au bout du fil?
Bonjour Pascal.
T'es venu en studio cette semaine, puis là on te retrouve au téléphone parce que tu es de retour dans ton grand Montréal. Mais ça t'empêche pas de jeter
un œil. L'actualité politique se bouscule cette semaine, ça n'a aucun bon sens.
C'est incroyable avec le budget qui a fait réagir pendant plusieurs jours. Au moment donné, on a pris la décision d'arrêter d'en parler, d'attendre que les petites perles ici et là ressortent à travers les prochains jours. Mais aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de cette rencontre entre François Legault et Justin Trudeau. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a bien des citoyens qui s'en foutent éperdument, mais ça reste une rencontre très importante entre les deux hommes politiques, là.
C'est toujours une rencontre très importante quand il y a une rencontre au sommet entre les deux premiers ministres. Aujourd'hui, ce qu'on me dit du côté d'Ottawa et de Québec, c'est qu'environ 80 % de la rencontre qui va être sur l'immigration, puis un autre 20 % de la rencontre qui va être sur les transferts en santé. On sait, Québec veut... se faire indemniser pour le programme d'assurance médicaments qu'on a déjà, qu'Ottawa veut mettre à la grandeur du pays. Donc, les discussions à ce niveau-là vont être intéressantes. Mais le gros du sujet, ça va être l'immigration. Monsieur Legault, hier, a répondu dans une question à l'Assemblée nationale à Paul Saint-Pierre Plamondon que l'immigration et le rapatriement des pouvoirs en immigration, ça va être sa priorité pendant la rencontre d'aujourd'hui.
Est-ce qu'on s'attend à avoir des résultats de cette rencontre-là? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé du sujet, Jérémy, c'est plutôt un bras de fer, c'est plutôt, une inéquité.
Un dialogue de sourds un peu.
Ouais, absolument. Puis là, on fait-tu semblant, finalement, qu'on a été capable de parler puis de dénouer les nœuds dans ces deux très importants pans de la politique, soit l'immigration et la santé entre Québec et Ottawa?
C'est très certain que M. Legault et M. Trudeau ont intérêt à faire comme s'il y avait des avancées, même s'il n'y en aura peut-être pas beaucoup. M. Legault sent très certainement le souffle de Paul Saint-Pierre Plamondon, du moins on le voit dans les sondages qui commencent à prendre le devant. Il doit démontrer qu'il fait des gains. Et de l'autre côté, M. Trudeau a besoin d'alliés. Donc, ça va être intéressant de voir pour la première fois les deux hommes qui ont besoin l'un de l'autre, même s'ils ne s'entendent pas idéologiquement. M. Legault, ce qu'il veut, c'est plus de pouvoir. Il dit vouloir rapatrier les pouvoirs. Et ça, il le dit depuis son tout début avec la CAQ. Il l'a mis dans sa plateforme électorale. Il n'y a personne ici là qui est bien surpris de ça. Au contraire, si hier, il avait dit en chambre qu'il ne parlerait pas d'immigration, je vous garantis que la couverture aujourd'hui aurait été fortement plus négative que ce qu'on voit en ce moment. Aujourd'hui, ce qu'il veut faire, il veut demander à Ottawa, notamment, plus de pouvoir en matière des demandeurs d'asile, ou du moins, si pas plus de pouvoir, le fait que Ottawa les redistribue plus équitablement dans les autres provinces. Et il veut conserver et gagner des pouvoirs en matière d'immigration temporaire, notamment pour les étudiants étrangers.
Ça, c'est un peu difficile à comprendre au quotidien, dans le sens où on veut faire en sorte que les étudiants étrangers viennent ici, qu'ils soient bien incorporés et qu'ils fassent partie de la vie étudiante en général?
Tout ce qui est l'immigration temporaire, M. Legault et son équipe sont bien conscients, ils ne demandent pas tous les pouvoirs pour avoir des postes de douane Québec au lieu de Canada. Ça, c'est M. Paul Saint-Pierre Plamondon qui demande ça avec l'indépendance du Québec. M. Legault, ce qu'il veut, c'est se concentrer sur ce qu'on appelle l'immigration temporaire, se concentrer sur la réunification familiale. L'immigration temporaire, ça, c'est économique. Par exemple, quand il y a des travailleurs temporaires qui viennent travailler dans les fermes du Québec ou dans les usines, ça, c'est de l'immigration économique temporaire. Et les étudiants temporaires, ils en veulent un peu moins et davantage de francophones. Ça, pour le Québec, c'est des choses qu'ils jugent dans leur juridiction. Et c'est des choses qu'ils vont demander à Ottawa. Ça s'accompagne d'une demande financière d'environ 1 milliard de dollars. On avait vu il n'y a pas si longtemps quatre ministres du gouvernement caquiste sortir, demander 1 milliard de dollars. Et pourquoi on demande cet argent-là? Bien, c'est parce que à Québec, on juge qu'on en reçoit plus que prévu, qu'on en reçoit même trop, et on va aller chercher de l'argent du fédéral pour aider à l'intégration, contribuer aux efforts quand on reçoit des immigrants, là, éducation, santé, garderie, etc. C'est tous des services qui coûtent plus cher à l'État. Donc, et Québec est la seule province au Canada à aller chercher de l'indemnisation parce que c'est eux qui sont responsables de l'intégration, contrairement aux autres provinces.
Fait qu'en ce moment, il faut dire que François Legault se bat pour les intérêts financiers, disons-le comme les intérêts financiers aussi des contribuables, en se disant, ben là, il faut aller chercher une enveloppe supplémentaire à Ottawa parce que les enjeux que l'on vit ici avec l'immigration commencent à nous coûter cher. Puis en plus, ben, ça mine la montée d'une bonne intégration et donc d'une bonne société, si on veut, pour tous et
exactement.
Chacun.
Exactement. Et ça, si on s'en tient là, parce que le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration, c'est un peu un couteau à double tranchant. Là, on parle de l'immigration temporaire. Mais si on parlait vraiment de tous les pouvoirs en immigration, ça voudrait-tu dire qu'on serait responsable de tout ce qu'Immigration Canada est responsable? Ça veut-tu dire qu'on aurait des postes frontaliers, douaniers du Québec, gérés par le Québec? Et là, ben, un gouvernement qui a un déficit d'11 milliards de dollars, je ne suis pas certain que c'est exactement ça qu'il veut. Mmh. Donc, on assiste aussi à un peu un exercice de relations publiques. M. Legault doit démontrer qu'il fait des gains. Il en a fait dans la dernière année. Il est allé chercher, par exemple, le cabinet de M. Legault va dire on a eu les visas sur les Mexicains, la fermeture du chemin Roxham et le plafonnement des étudiants temporaires étrangers. Ottawa va dire qu'on a fait ça en collaboration avec Québec, mais il y a eu des avancées. Tout ça ne va pas se faire demain matin. Il ne va certainement pas se faire dans une rencontre d'une trentaine de minutes, une heure.
Non, c'est ça. Surtout qu'il va y avoir un point de presse ensuite pour les journalistes. J'ai l'impression que c'est plutôt l'ouverture. Tu sais, le point 1 d'une rencontre, là, que ce soit au travail ou que ce soit pour un X, Y projet, on était juste dans l'introduction de cette rencontre-là ce matin. Par contre, Jérémy, il y a quelque chose que tu as abordé et tu as survolé que j'ai trouvé fort intéressant dans les dernières minutes, puis on est passé vite. Trudeau a besoin de Legault, Legault a besoin de Trudeau. Est-ce que Trudeau a plus besoin de Legault que Legault a besoin de Trudeau?
Je pense que les deux ont besoin. Je pense que les deux ont besoin l'un de l'autre parce que bon, M. Trudeau, c'est vrai que les élections arrivent plus rapidement. Et l'écart avec les conservateurs, en ce moment, les derniers chiffres, on a les conservateurs qui frôlent 40% au point de vue fédéral et les libéraux qui sont à 24%. Mais M. Legault aussi a une tendance à la baisse. Le Parti québécois, dans les derniers chiffres, était à 31% versus 24% pour la Coalition Avenir-Québec. Donc, mathématiquement, les deux hommes ont besoin d'alliés, les deux hommes ont besoin de démontrer qu'ils font des gains et que leur façon de faire est la bonne. Du côté de M. Trudeau, il veut garder le Québec est indispensable pour M. Trudeau dans la prochaine élection. Donc, il veut démontrer qu'il s'entend bien avec le gouvernement du Québec. Il a besoin d'un allié. Mais ce ne sont pas des alliés naturels. Idéologiquement, ils sont à l'opposé l'un de l'autre.
Oui, c'est plutôt stratégique. Justin Trudeau est en train de s'adresser aux médias.
On reconnaît que ça met beaucoup de pression non seulement sur le budget du Québec, mais aussi sur les systèmes, système de santé, système d'éducation. C'est pour ça qu'on est là pour travailler avec Québec, pour assurer qu'on est en train de reconnaître ce qu'ils sont en train de faire et pour enlever de la pression, mais aussi avoir de la compensation. Mais on va parler plus directement des chiffres en rencontre et hors de travail.
Good morning, Mr. Trudeau, Jay Turnbull, CBC. Okay, donc, c'est vraiment ce qu'on pensait, Jérémy. Là, ça semble être plus une mise en bouche, disons-le comme ça, ce qui s'est passé ce matin entre Justin Trudeau et François Legault. Et l'immigration était au sommet des enjeux, mais il n'y a pas encore de chiffres abordés ou de chiffres qui ont été... Mais le non-verbal de Justin Trudeau n'est pas très positif là, en ce moment. Lors du point de presse, j'ai l'impression que ça a peut-être brassé.
Même lorsqu'ils sont entrés, c'est pas des alliés naturels, on le disait un peu plus tôt. Même quand ils faisaient leur petite mêlée de presse avant la rencontre, on sent pas une grande amitié légendaire entre les deux hommes.
Ça a l'air décourageant, mais essentiel.
C'est essentiel. Bon, M. Trudeau a reconnu la pression financière. J'espère que ce ne sera pas juste. On reconnaît les pressions qu'on vit l'un et l'autre et on s'entend pour qu'on va collaborer ensemble pour un meilleur avenir pour nos deux partis. À un moment donné, là, les Québécois ont besoin de voir les choses avancer. En même temps, cette rencontre-là, c'est pas là que ça se passe. M. Trudeau a dit les chiffres, ça va se négocier dans les rencontres de travail avec les fonctionnaires, avec les deux ministres. Et là, si on parle des deux ministres de petites secondes, les deux ministres doivent mettre les guerres de Twitter de côté, s'asseoir à la même table et travailler ensemble.
C'est un bon lien vers notre dernier sujet, Jérémy. Mais juste pour clôturer, il y a des gens qui disent si Legault réussit à ramasser le pouvoir pour le Québec, il pourrait démontrer que le PQ est useless, qui en fait a laissé de côté et qu'il est capable de travailler avec les autres. Et ça enverrait un signal peut-être aux autres provinces aussi de se battre pour leur portefeuille ou encore leurs problématiques, leurs enjeux dans les provinces. C'est un commentaire d'auditeur qu'on vient de recevoir. Tu parlais
effectivement, mais l'équipe de M. Legault ne voudra jamais aller jusqu'à demander des postes frontaliers parce qu'on ne veut pas la responsabilité financière et toutes les autres responsabilités qui viennent avec ça.
Il y en a en masse aussi à gérer dans nos ministères en ce moment. On parlait des réseaux sociaux, de Twitter, les guerres là, où on s'affronte entre politiciens, mais il y a aussi tout ce qui est affrontement avec les citoyens. Récemment, il y a des enjeux dans l'actualité comme quoi est-ce qu'un politicien peut supprimer ou encore bloquer des gens de ces réseaux sociaux? Est-ce que c'est bien vu ou c'est mal vu, finalement, quand quelqu'un te boycotte, soit en tant qu'analyste, commentateur, chroniqueur ou simple citoyen qui n'est pas d'accord avec ce que tu proposes, toi, comme politique? Des fois, ça va plus loin. Des fois, ça va avec... ça vient avec son lot d'insultes et même, finalement, de menaces. Encore une fois, ce matin, on lisait dans le journal qu'il y a un homme qui a été arrêté pour avoir fait des sérieuses menaces de mort au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. On sait que c'est pas la première fois. Il y a eu beaucoup de politiciens qui auraient été menacés à un point où la Sûreté du Québec a évalué l'utilisation de vestes pare-balles pour les politiciens. Mmh. Là, c'est un homme de 40 ans qui a été arrêté, mais c'est loin d'être la première fois. Rappelons-nous juste ce qui s'est passé avec Pauline Marois lors de ses élections où elle a été gagnante, en fait. Il y a eu une montée quand même de l'intolérance, disons-le, comme ça, qui se fait voir beaucoup et se fait entendre beaucoup par les réseaux sociaux. Puis je posais la question aux éditeurs un peu plus tôt. Est-ce que vous avez déjà insulté qui que ce soit sur les réseaux sociaux en vous pensant caché derrière votre écran? J'ai la présomption de croire que beaucoup d'auditeurs, ce sont des gens sains, la majorité. Et il y en a quand même qui ont dit « Oui, moi, j'ai déjà osé passer mon message d'une manière peut-être trop agressive en réalisant pas que je m'adresse à un humain derrière qui peut avoir des répercussions autres que juste brasser la cabane, comme on dit. Mais ça, ça a pris de l'ampleur dans les dernières années. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est tellement une question large. »
Ben, c'est une question large parce que, bon, au début, moi-même, j'ai déjà bloqué des gens sur mes réseaux sociaux. Moi, quand ça franchit la ligne du manque de respect, c'est là que je débarque. Puis quand ça fait en plus une menace physique à l'intégrité de la personne, quand on pense à M. Paul Saint-Plamondon qui s'est fait menacer, lui et sa famille, comme quoi ils allaient se faire exterminer par la personne qui a fait les menaces, c'est complètement inacceptable, on doit le dénoncer.
On ne peut pas prendre ça à la légère, là, même si la personne ne le ferait pas.
Jamais, jamais on peut prendre ça à la légère. Que ce soit une lettre papier ou que ce soit un commentaire sur le bord de la rue ou que ce soit via les réseaux sociaux. Et on voit de plus en plus les corps policiers, les autorités mettre leurs pieds à terre en ce qui a trait à ça. Après ça, c'est vrai, on a vu une augmentation de ce genre de commentaires-là, parce que j'ai l'impression que les gens, effectivement, à travers les réseaux sociaux, il y a comme un aspect déshumanisant. On s'adresse pas vraiment à l'être humain en arrière. On pense qu'il y a des équipes qui gèrent tout ça pour eux. Un, c'est lourd pour les équipes qui gèrent ça, c'est vrai. Mais les politiciens finissent toujours par le voir quand on se fait dire qu'on va exécuter notre famille, que ce soit via Twitter, en personne ou autre, ça reste traumatisant, là. Ça, c'est pour ça, le volet des menaces. Le volet de bloquer des gens. Moi, j'ai mis à la blague hier sur mes réseaux sociaux, à travers cette conversation-là, Yves-François Blanchet m'a déjà bloqué parce qu'il trouvait que j'étais peut-être un peu partisan à essayer de contredire ou à dire quand j'étais en politique.
Hey, mais Yves-François Blanchet, c'est un des pires bloqueurs, là. Il bloquait énormément de gens à une époque, là.
Dès qu'on n'est pas d'accord avec M. Blanchet, on a l'impression que M. Blanchet le bloque. Et il a toujours été constant avec ça, par exemple. M. Blanchet, comme c'est mes réseaux sociaux, c'est moi qui décide qui est là, puis si ça me tente pas de vous lire, je vais vous bloquer, et c'est ça, puis je passe mon message.
Ça, dans la vie, quand t'es un citoyen normal, je comprends. Ouais. Est-ce qu'un politicien peut faire ça, par contre?
Bien, c'est ça. C'est le hic avec ça, c'est de dire... Par exemple, moi, à l'époque, j'étais en politique, j'étais avec les libéraux. M. Blanchet me bloque. Moi, j'ai plus accès à rien de ce que M. Blanchet publie. Il faut faire la nuance. C'est pas tout est des menaces. Moi, dès que ça dépasse, ma limite, là, c'est quand c'est irrespectueux ou des menaces, moi, je bloque même personnellement ces gens-là. Quand c'est quand c'est du débat, il y a toujours une façon de débattre de façon saine, sans tomber dans l'attaque personnelle, sans tomber dans mon maudit écœurant, papapap, papapap. Ça, à un moment donné, là, on ne dirait pas ça si la personne est en face de nous. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui diraient ça si c'est en face de nous. En fait, tant, j'ai pas envie de m'asseoir pour prendre une bière avec cette personne. C'est là où c'est comme si les réseaux sociaux, il n'y a plus vraiment de ligne, on se permet tout, on se permet des choses qu'on ne se permettrait jamais à faire en personne. À un moment donné, ce que notre mère nous a appris quand on était plus jeune, les bases de notion de respect avec nos amis, avec les gens qu'on rencontre, ben appliquez-les sur les réseaux sociaux, ça va tout nous éviter des moments un peu comme celui-là.
Oui, c'est un bon conseil, puis j'ai l'impression que se poser la question, est-ce que je lui dirais au visage en premier, en est une bonne, en fait, avant d'aller de l'avant.
Ou juste de relire. Gardez votre tweet, relisez-le une heure plus tard. Si vous faites comme, mettez-le pas.
En même temps, les débats sont sains. Donc, la barrière très rapide de Yves-François Blanchet, pour prendre l'exemple, je la trouve un peu peut-être néfaste pour son image. Parce qu'à un moment donné, moi, ça m'a montré qu'il n'aimait pas le débat, il n'aimait pas les divergences d'opinion, il n'aimait pas quelqu'un qui le contredisait ou encore qui amenait des arguments ou qui n'était juste pas en désaccord avec lui. Puis ça, pour moi, ça a démontré une faiblesse politique. Sur le coup.
Ben, donc, ça montre que tu n'es pas capable d'accepter la critique ou de simplement défendre ton point de vue. C'est pour ça que je dis, il y a la limite de la menace et l'insulte, le manque de respect, mais de l'autre côté, quand c'est juste un refus de peut-être se faire, en bon français, challenger sur nos positions, sur notre idéologie, c'est normal. En politique, on ne va jamais être d'accord, tout le monde, sur le même sujet. Mais si on n'est pas capable d'en parler et d'en débattre sainement, c'est là qu'on a un problème.
Ça, le bas blesse. Merci beaucoup, Jérémy Guillaume. On va surveiller le point de presse de Justin Trudeau, qui parle actuellement de sa rencontre avec François Legault un peu plus tôt ce matin. Mais ça semble vraiment être juste une mise en bouche, ce qui s'est passé ce matin. Assurément, les deux enjeux, transfert en santé, immigration. On se reparle la semaine prochaine. Jérémy, merci.
Merci. Bye-bye.
Il est directeur chez TAC. Il a travaillé longtemps en politique, dans les coulisses, à gérer tout ce qui est communication et encore peut-être stratégie. Il est avec nous à chaque semaine dans leur CV. Je vous avais demandé si ça vous était déjà arrivé d'insulter. Puis là, c'était loin d'être un appel à l'insulte, là, mais d'insulter des gens ou des politiciens, puis de faire « moi, c'était pas ma meilleure shot » parce que vous pensiez un peu caché derrière l'écran ou encore vous pensiez que ça n'allait jamais se rendre aux oreilles de la dite personne. Certains ont été honnêtes, certains l'ont dit. Moi, je le ferais pas par les réseaux sociaux, mais assurément que si, je dirais pas qui, si je croise telle personne en politique, je vais lui dire ma façon de penser par rapport à certaines gestions qui ont été faites dans le passé. Je n'irai pas dans l'insulte, mais assurément que je serais capable de lui dire en plein visage que ça m'a donné beaucoup, beaucoup de problématiques et que j'ai détesté son passage en politique. Quelqu'un qui dit « Oui, moi, j'ai déjà insulté des gens qui avaient organisé une manifestation pro-armes à feu, la journée commémorative de la tuerie de Polytechnique. Je suis pas anti-armes à feu, mais j'ai trouvé ça tellement stupide que je me suis emportée et j'ai manqué de fil. » Quelqu'un d'autre qui dit « Moi, j'ai déjà insulté Justin Trudeau après des frasques à l'international, nous avons fait passer pour des stupides et des niaiseux. Finalement, j'ai passé pour un stupide et un niaiseux. Je regrette de ne pas avoir utilisé les bons mots pour faire passer mon message parce qu'officiellement, ça s'est retourné contre moi dans les réseaux sociaux et personne ne m'a donné d'attention. Si j'avais utilisé un meilleur vocabulaire, fort probablement que j'aurais pu avoir des débats et m'assurer un appui des autres. » C'est quand même très intelligent comme réflexion. 88-971-1021, si jamais vous voulez passer votre message. Bien, ici, c'est possible. C'est... Ah, Jean Leloup. Je suis tellement contente. C'est une des meilleures... Je pense qu'ils m'ont entendu l'autre jour dire que je l'aimais beaucoup, celle-là. C'est un album à écouter et réécouter. Ben oui, c'est Jean Leloup. C'est un peu fou, ce qu'il chante, mais... Et qu'on l'aime.